1-5, carrière en solo, 1970 à 1980. 1-5-1, premières années. Après la séparation des Beatles, John Lennon se consacre à sa carrière, à sa femme et à la politique. En février 1970, il publie son troisième 45 tours en solo, Instant Karma, qui marque le début de la collaboration entre Lennon et le producteur renommé Phil Spector. Pour la promotion, Lennon effectue un retour à l'émission anglaise Top of the Pops pour la première fois depuis 1966. La chanson atteint le top 5 des classements britanniques. À cette époque, Lennon suit une thérapie par le cri primal dont les résultats sont mitigés. Au mois de septembre, il entame l'enregistrement de son premier véritable album solo, John Lennon Plastic Ono Band. Pendant 4 semaines, il s'entoure d'amis proches, Ringo Starr, son ex-compère des Beatles à la batterie, Klaus Voormann, un ami de l'époque de Hambourg, tient la basse. Enfin, le piano est assuré par Billy Preston et parfois par Phil Spector lui-même. En 1971, Lennon se rend pour la première fois dans la famille de Yoko Ono au Japon. Il est également concerné par deux batailles juridiques, la dissolution des Beatles par les tribunaux et l'obtention de la garde de Kyoko, la fille de Yoko. En juillet, il enregistre son second album, Imagine, qui lui donne véritablement une crédibilité en tant qu'artiste solo. L'album contient d'ailleurs la chanson éponyme, un hymne pacifique et utopique souvent considéré comme sa plus grande chanson. Le disque comporte aussi des pamphlets politiques, comme Gimme Some Truth, adressé à Richard Nixon, ou encore How Do You Sleep, qui attaque McCartney. Une autre chanson du disque se révèle populaire, Oh Yoko, mais Lennon renonce à la sortir en single, craignant que ce ne soit pas représentatif de l'image que j'avais de moi, du rock'n'roller dur et mordant au verbe acide. Le 31 août 1971, il part s'installer à New York et sort Happy Christmas, War is Over, en décembre avec les enfants du chœur britannique de Harlem. Si le single reste discret aux États-Unis, il a du succès au Royaume-Uni quand il y est publié un an plus tard. Par ailleurs, à travers ses nombreux engagements, John Lennon devient l'incarnation de l'activisme politique de sa génération et utilise sa notoriété en faveur de la paix ou des bonnes causes. En 1972, au milieu des ennuis avec l'administration américaine qui ne veut plus de lui sur son sol, Lennon enregistre Sometime in New York City, mais les critiques aussi bien que les ventes se révèlent mauvaises. Le 30 août, il donne au Madison Square Garden deux concerts de charité qui restent les dernières prestations complètes de sa vie, hors apparition ponctuelle. Au début de l'année suivante, Lennon perd quelque peu le fil de sa production, déclarant ainsi au sujet de son disque à venir « Ça devient un travail, et ça tue la musique. C'est comme quand on sort de l'école et qu'on n'a plus envie de lire un livre. » En avril 1973, il quitte Greenwich Village pour emménager au Dakota Building, dans un quartier nettement plus huppé. 1-5-2, le week-end perdu. À l'été 1973, les relations de John avec Yoko Ono se dégradent, au point qu'elle le met à la porte, et Lennon s'installe à Los Angeles avec May Pang, sa jeune assistante et nouvelle compagne. Il décrit cette période comme son week-end perdu, Lost Weekend, bien qu'elle dure en réalité plus d'un an. Lui qui doit régulièrement affirmer que Yoko n'a pas causé la fin des Beatles, plaisante à propos de cette période où elle était loin d'elle. On s'est séparés pendant 18 mois, Yoko et moi, et à ma connaissance, les Beatles ne se sont pas reformés pour autant, donc Yoko n'était pas la cause de leur séparation. Toutefois, c'est bien un jeune Lennon en perdition qui s'installe en Californie, avouant lui-même être devenu complètement fou, tentant vainement de noyer dans l'alcool tout ce qu'il ressentait. Sous l'influence de May Pang, il tente cependant de renouer des liens avec son fils Julian et le rencontre avec Cynthia lors d'un séjour à Disneyland. Il lui offre par la suite une guitare et d'autres instruments et lui apprend à en jouer. Lennon renoue également brièvement avec Paul McCartney et se lie d'amitié avec plusieurs célébrités du monde musical comme Elton John et David Bowie. D'une part, il invite le premier à chanter sur sa chanson « Whatever Gets You Through the Night ». Dans la période d'errance que traverse Lennon, ce titre, publié en single en octobre 1974, connaît un grand succès et relance sa carrière sur le marché américain, c'est son unique numéro 1 solo et de son vivant. De plus, ayant parié avec Elton John qu'il l'accompagnerait en concert si le disque se classait en tête, Lennon s'exécute le 28 novembre 1974 au Madison Square Garden, où il joue également « Lucy in the Sky with Diamonds » et « I Saw Her Standing There ». Cette dernière apparition sur scène est publiée avec les autres chansons du concert sur l'album d'Elton John, Here and There. D'autre part, John Lennon coécrit la chanson Fame avec David Bowie, son premier grand succès aux États-Unis. Lennon accompagne par ailleurs Bowie dans sa reprise de Across the Universe, tandis que ce dernier reprend les premiers mots de A Day in the Life, I Read the News Today, Oh Boy, dans la chanson titre Young Americans. Durant cette période, Lennon enregistre tout de même deux albums avec le producteur Phil Spector. Walls and Bridges et Rock'n'Roll, ce dernier constitué de reprises de classiques du rock'n'roll comme Bebopalooza ou Peggy Sue. Cet album est pourtant enregistré à contre-cœur car il s'agit d'une obligation contractuelle vis-à-vis de Maurice Levy. En effet, Lennon a été accusé de plagiat en 1969 pour avoir emprunté, sur son titre Come Together, les quatre mots « Here Come All Flat Top » de la chanson « You Can Catch Me » de Chuck Berry, dont les droits revenaient à Maurice Levy. Il doit donc s'engager à enregistrer trois chansons du catalogue de Levy. Finalement, il déclare au sujet de rock'n'roll « Ce fut une humiliation, et je regrette de m'être trouvé dans cette position, mais je l'ai fait ». À cette époque, le rapprochement avec Julian se poursuit, celui-ci jouant de la batterie sur un titre de Walls and Bridges. 1-5-3, retraite et temporaire et assassinat. Au début de 1975, Yoko Ono accepte que Lennon revienne habiter chez elle, sous réserve qu'il respecte certaines conditions. Il accepte ainsi de se soumettre à un régime macrobiotique sain, sans viande ni alcool, mais aussi de laisser sa femme gérer entièrement ses affaires. Elle investit alors dans l'immobilier et l'élevage. Yoko finit par se retrouver enceinte, mais, la quarantaine entamée et avec le souvenir de ses précédentes fausses couches, elle voudrait avorter. Lennon refuse catégoriquement et parvient à la convaincre de garder l'enfant en s'engageant à s'en occuper. Ainsi, le 9 octobre, jour du 35e anniversaire de John, naît son second fils, Sean. Lennon se retire alors de la vie publique et musicale pour se consacrer à l'éducation de son fils. Sa toute dernière prestation publique a lieu le 13 juin 1975, lors d'un show télévisé en hommage à Lou Reed. Pendant cette période, Lennon dessine et écrit beaucoup, et s'occupe aussi de tâches domestiques. Son activité musicale est ralentie, mais loin d'être arrêtée, comme en témoignent les Lost Lennon Tapes, ou encore les chansons Real Love et Throw Us a Bird, qu'il compose vers 1977 et 1978. Mais ce silence public laisse perplexe aussi bien les fans, toujours dans l'expectative, que les médias. Le 14 janvier 1978, le New Musical Express titre « Où donc es-tu, John Lennon ?» ou encore ses collègues de la scène rock. Sur cette période, Lennon s'explique dans une chanson « Watching the Wheels » lors de son retour public en 1980. Il effectue cette année-là un voyage aux Bermudes où il écrit la plupart des chansons d'un nouvel album. Il retrouve une maison de disques avec David Geffen et débute l'enregistrement le 4 août. Sorti en novembre aux États-Unis, l'album Double Fantasy, avec des titres chantés en alternance par Yoko et lui, marque le retour de Lennon et obtient, dans un premier temps, des résultats corrects. Ceci explose finalement après l'assassinat du musicien. Le 8 décembre 1980, à 22h52, après une soirée de travail en studio, et alors qu'il rejoint son appartement du Dakota Building côté de Central Park, Lennon reçoit 5 balles de revolver tirées par Mark David Chapman sous les yeux de son épouse. Emmené à l'hôpital Roosevelt en urgence, il est déclaré mort à 23h07, 15 minutes après les coups de feu. Le lendemain, Yoko annonce « Il n'y aura pas de cérémonie pour John. John aimait et priait pour l'humanité. S'il vous plaît, faites de même pour lui. Merci, Yoko et Sean. » Son corps est incinéré et ses cendres remises à Yoko. L'assassin, Mark Chapman, plaide coupable et écope d'une peine de prison à perpétuité avec 20 ans incompressibles. Sa libération conditionnelle est refusée à 5 reprises, notamment parce qu'il est revenu à plusieurs reprises sur ses témoignages. Les raisons de ce meurtre demeurent floues. Certains y voient un sentiment de trahison qu'aurait éprouvé Chapman, accusant son idole de ne pas avoir tenu ses promesses de paix et d'égalité des richesses qu'il communiquait dans ses chansons. D'autres y voient une réponse à sa phrase affirmant que la popularité des Beatles dépassait celle de Jésus. Lennon avait évoqué sa mort violente en chanson de façon troublante, avec le « shoot me » répété avant chaque couplet de « Come Together », ainsi que dans une interview. Le jour même de son assassinat, il avait déclaré « Je considère que mon travail ne sera pas terminé tant que je ne serai pas mort et enterré, et j'espère que ce sera dans très très longtemps. » En l'espace de quelques mois, son dernier album, Double Fantasy, s'écoule à 7 millions d'exemplaires à travers le monde.
2. Personnalité et engagement. 2-1. Personnalité. 2-1-1. Humour et irrévérence. John Lennon se démarque par un sens de l'humour développé qui fait partie intégrante de son image et de sa personnalité. Cet humour émaille notamment les chansons des Beatles qu'il a écrites ou ses contributions. Ainsi, dans Getting Better, alors que Paul McCartney chante que tout va de mieux en mieux pour lui, Lennon rajoute que ça ne peut pas être pire, de toute façon. Sur le refrain de sa chanson Girl, il chante avec les autres Beatles « tit 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 », soit « nichon, nichon, nichon » en argot, mais personne ne le remarque. Lennon peut également se montrer plus acerbe. Lorsqu'il apprend que les professeurs étudient ses chansons en cours, il décide d'en écrire une dénuée de tout sens, « I am the Walrus », qui signifie littéralement « Je suis le Morse », en référence à Alice au Pays des Merveilles, afin de voir ce que ces connards pourront trouver là-dedans. Il écrit « Glass Onion » dans le même esprit, révélant qu'en réalité, le Morse était Paul. Lors des conférences de presse, Lennon, comme les autres Beatles, n'hésite pas à sortir quelques piques humoristiques, parfois teintées d'absurde et de non-sens. Ainsi, lorsqu'on lui demande en 1964 d'où vient le nom Beatles, il répond « J'ai une vision lorsque j'avais 12 ans. J'ai vu un homme sur une tarte flamboyante qui m'a dit « Vous êtes les Beatles avec un A ». Cet humour en interview devient une habitude des Beatles et perdure pendant toute la Beatlemania. En 1966, lors d'une conférence de presse à l'occasion d'un concert au Candlestick Park, on leur demande ce qui a inspiré Eleanor Rigby. Ce à quoi Lennon répond un brin sarcastique et provoquant les rires hors de la salle. Deux homos, deux tapettes. Par la suite, il tempère et relativise cet humour en interview. On nous posait des questions blagues et on faisait des réponses blagues, mais en réalité, on n'était pas drôle du tout. Ce n'était que de l'humour de potache, celui qui fait rire à l'école. Cet humour peut également se faire irrévérencieux. En novembre 1963, lorsque les Beatles ont l'honneur de jouer devant la famille royale, Lennon lâche une pique humoristique avant d'entonner Twist and Shout au grand dam du manager du groupe, Brian Epstein, qui craignait un tel débordement. Pour notre prochain titre, les gens installés dans les places les moins chères veulent-ils frapper dans leurs mains? Et tous les autres, agitez vos bijoux. Lennon utilise l'humour dans ce genre de situation intimidante pour faire face à la pression. Lorsque les Beatles reviennent donner une série de concerts à Liverpool, ils sont peu sur deux, craignant le jugement que pourraient leur porter tous les gens qu'ils connaissent sur place. Lors d'une apparition au balcon, face à la foule, Lennon se fend alors d'un salut nazi que personne ne semble remarquer. Il aime aussi amuser ses partenaires sur scène en imitant les handicapés psychomoteurs, une plaisanterie récurrente en 1964 lorsqu'il demande au public de taper dans ses mains en frappant du pied. En août 1965, lorsque les Beatles deviennent le premier groupe de rock à donner un concert dans un stade, le Shea Stadium de New York, devant une assistance record, Lennon met ses camarades à l'aise d'un grand renfort de mimique et gesticulation, martyrisant notamment un orgue farfissa avec ses coudes au moment de l'interprétation de I'm Down en jetant des clins d'œil amusés à George Harrison. McCartney témoigne, c'était un des trucs bien avec John. Quand un concert s'avérait un peu délicat, et celui-là l'était sans le moindre doute, ses vieux réflexes de comique ressurgissaient toujours. 2-1-2, croyance et spiritualité. John Lennon connaît une période où il s'oppose au christianisme en réaction à son éducation chrétienne. Dans la chanson Girl, il glisse des allusions à cette religion sur la souffrance nécessaire pour atteindre le paradis. Il remet ainsi en cause cette notion dans les deux livres qu'il écrit, où il s'en prend entre autres à l'église. J'y suis allé fort contre l'église, mais bien que ça ait été criant, ça n'a jamais été relevé. Lennon s'ouvre à d'autres spiritualités dès le milieu des années 1960, lorsqu'il lit l'ouvrage The Psychedelic Experience de Timothy Leary, Richard Alpert et Ralph Metzner, inspiré du livre des morts issu du bouddhisme tibétain. Cet ouvrage, profondément lié à l'usage du LSD, inspire à Lennon l'une de ses premières chansons aux tonalités psychédéliques, Tomorrow Never Knows, qui clôt l'album Revolver en 1966. Cependant, Lennon déclare en 1972 qu'il n'a jamais lu le livre des morts tibétains et s'est contenté de cette adaptation. Comme les trois autres membres du groupe, John Lennon a également rencontré Maharishi Mahesh Yogi en août 1967 et a participé à un week-end de formation personnelle à la méditation transcendantale. En 1968, le groupe se retire en Inde dans l'ashram du Maharishi. Ils y méditent et composent une grande partie des chansons de l'album blanc. Cependant, Lennon s'est finalement fâché avec le maître spirituel dont il pensait avoir percé les faiblesses. Il l'exprime dans sa chanson Sexy Sadie, parue sur cet album. Cette dispute n'a cependant pas empêché Lennon de continuer à pratiquer la méditation. Dans le même esprit, il s'intéresse au mantra et au yoga. John Lennon se passionne pour certains domaines d'aspiration mystique ou occulte, tels les tarots ou la numérologie. Il attribue en particulier une valeur importante au chiffre 9, qu'il considère comme étant intimement lié à sa vie. Né un 9 octobre, tout comme son fils, et ayant vécu au numéro 9 de Newcastle Road à Liverpool, il l'utilise dans plusieurs titres de ses chansons. One After 909, Revolution 9, sur lequel il assène en boucle Number 9, Number 9, ou encore Number 9 Dream, en solo. Après sa mort, les aficionados de la numérologie trouvent encore d'autres signes. Il a été assassiné sur la 72e avenue, 7+2, et, s'il est mort un 8 décembre à New York, le décalage horaire impliquait que c'était déjà le 9 à Liverpool. Hasard ou non, Apple a choisi la date du 9 septembre 2009, 090909, pour publier les versions remasterisées de tous les albums des Beatles. En 1970, pour se débarrasser du poids de la mort de sa mère et de ses problèmes d'héroïne, Lennon entame une thérapie primale avec le docteur Arthur Janov, après avoir lu l'un de ses livres. En mal de publicité, Janov envoyait en effet un ouvrage aux célébrités du moment, comme Peter Fonda ou les Rolling Stones. Surtout attiré par la perspective de ce cri libérateur, John, accompagné de Yoko, suit un traitement de choc où il doit replonger dans son enfance et recevoir des massages vigoureux pour faire cesser ses allaitements névrotiques. Après 3 semaines, le docteur Janov lui offre la perspective d'une entrée aux États-Unis pour raisons médicales, ce qui enchante le musicien. Le couple se rend ainsi en Californie, et le traitement suit son cours, qui, d'après Lennon, renforce ses liens affectifs avec Yoko. Cela dure jusqu'à une dispute entre Lennon et Janov, qui voulait le filmer pendant une séance collective de cris. L'accusant de chercher le scoop, Lennon entre progressivement en froid avec lui, et les critiques de Ono, de plus en plus régulières, le convainquent de mettre un terme à la thérapie.
Il quitte ainsi Janov au moment où son visa américain expire. Incomplète, la thérapie aura duré quelques mois seulement. Les vestiges en 100% audibles sur son premier album, paru fin 1970, John Lennon Plastic Ono Band. Par exemple, sur la chanson Mother, il se lamente à propos de ses parents et martèle en hurlant à la fin du morceau « Mama don't go, daddy come home, maman ne t'en va pas, papa revient à la maison ». De ce traitement exigeant, Lennon sort dans un plus mauvais état qu'à son arrivée. Lennon et Ono sont également à l'origine du concept de baggisme. Leur idée est de critiquer les préjugés fondés sur les apparences et de ne considérer que le message de l'interlocuteur en lui parlant comme s'il était dans un sac. Lennon définit le baggisme comme une forme de communication totale. Il mentionne par ailleurs cette pratique dans plusieurs chansons, notamment Give Peace a Chance et The Ballad of John and Yoko. 2.1.3. Consommation de drogue. Le premier contact de Lennon avec la drogue remonte à la période où les Beatles jouaient à Hambourg. Aussi bien Astrid Kircher que certains clients des clubs avaient pour habitude de leur donner des amphétamines qui leur permettaient de tenir le coup pendant les 8 heures qu'ils devaient assurer presque chaque nuit. Lors de la première et triomphale tournée des Beatles à travers les États-Unis, à l'été 1964, Bob Dylan les initie à la marijuana. Celui-ci croit qu'ils sont habitués, ayant compris les vers « I can't hide »,« Je ne peux pas le cacher », de la chanson « I want to hold your hand », comme « I get high »,« Je plane ». Dans une interview à Playboy, Lennon a expliqué que, durant le tournage de Help, les Beatles fumaient de la marijuana au petit déjeuner. Sa première épouse a également déclaré dans une interview en 1995 que leur mariage avait commencé à battre de l'aile à cause de la notoriété du groupe et de l'usage de plus en plus important de drogues auxquelles se livrait Lennon. Lennon a également consommé du LSD comme le reste du groupe. Il a également connu avec Yoko Ono une addiction à l'héroïne pendant plusieurs années. En août 1969, il tente un sevrage total afin de concevoir un enfant viable, sans succès. Le sevrage échoue et Yoko fait une fausse couche. Dans une interview donnée au magazine Rolling Stone en 1971, il explique qu'il en prenait avec elle lorsqu'il souffrait, à cause de ce que les Beatles et les autres leur faisaient. Il y déclare également que c'est à cause du nombre de bad trips qu'il a vécu sous LSD qu'il a décidé d'arrêter ce genre de drogue. Le couple Lennon a affirmé ne plus avoir consommé de drogue depuis la naissance de Sean en 1975, même si Yoko a avoué une brève rechute à la fin de la décennie. Les substances psychotropes ont une influence notable sur la créativité des Beatles, et sur celle de Lennon en particulier. Ainsi, à partir de 1965, et Daytripper notamment, il écrit de plus en plus de chansons faisant directement référence à la consommation de stupéfiants. Tomorrow Never Knows, She Said, A Day in the Life, etc. Par la suite, chacun cherche des allusions aux drogues dans les chansons du groupe. Le titre « Lucy in the Sky with Diamonds » est fréquemment associé au LSD, en référence à ses initiales, alors que la Lucy en question était une camarade de classe du fils de Lennon. En revanche, Paul McCartney a expliqué qu'il était assez évident que la drogue avait inspiré le texte de la chanson. Les stupéfiants, en particulier le LSD, modifient aussi la façon de fonctionner du groupe. Jusque-là considéré comme le leader des Beatles, Lennon se retire progressivement pour laisser McCartney prendre les rênes. L'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band est ainsi attribué principalement à McCartney, Lennon ayant expliqué par la suite qu'il était trop occupé à détruire son ego, un des effets présumés du LSD. C'est ensuite l'héroïne qui contribue à l'éloignement de Lennon vis-à-vis du groupe, le plongeant progressivement, d'après McCartney, dans la paranoïa. Comme beaucoup de célébrités des années 1960, Lennon n'échappe pas aux ennuis judiciaires en raison de sa consommation de drogue. En octobre 1968, alors qu'il habite Londres avec Yoko, la brigade des stupéfiants perquisitionne à son domicile et trouve une faible quantité de résine de cannabis. Lennon était persuadé de ne rien détenir, ayant été averti 3 semaines auparavant de la possibilité de perquisition. Il décide de plaider coupable et s'en tire avec une caution de 400 livres à payer pour lui et pour Ono. Le policier qui a mené la perquisition, le sergent Norman Pilcher, est connu à l'époque pour traquer les célébrités pop, ayant déjà réussi à confondre Donovan, Marianne Faithfull et Rolling Stones, pour les mêmes raisons. Cet épisode met un terme à l'immunité qui entourait les Beatles jusque-là, George Harrison étant aussi pris par la suite. Ce dernier parle même d'un complot de l'establishment. Plus tard, Norman Pilcher est jugé coupable de parjure dans d'autres circonstances. Quoi qu'il en soit, cette affaire sera retenue contre John Lennon lorsque celui-ci voudra s'établir définitivement aux États-Unis dans les années 1970.
2.2. Vie sociale. 2.2.1. Un caractère complexe. Si Lennon se montre parfois très attentionné, cette attention pouvant aller jusqu'à l'obsession dans le cas de Yoko Ono, il lui arrive également d'avoir des réactions violentes à l'encontre de ses proches. Lors de sa rencontre avec Cynthia Powell, lorsque celle-ci décline une invitation de Lennon au prétexte qu'elle sort avec un autre garçon, il lui réplique « Merde, je t'ai pas demandé de m'épouser, non ?» De même, il va jusqu'à la frapper lorsqu'il la surprend en train de danser avec son ami Stuart Sutcliffe. La forte tendance à la jalousie du chanteur contraste avec sa propre tendance à l'adultère, dont il se rend coupable à plusieurs reprises durant la carrière des Beatles. Il évoque cet aspect de sa personnalité en chanson, notamment dans l'album Rubber Soul avec Norwegian Wood, This Bird Has Flown et Run For Your Life. Cet aspect de la personnalité de l'artiste ne transparaît pas uniquement dans sa vie sentimentale, car il lui arrive de s'emporter avec ses amis et collègues de travail. Il exprime ainsi en 1980 une déception à propos de certaines de ses compositions de la période Beatles, rejetant la faute sur Paul McCartney qui, selon lui, tentait inconsciemment de détruire ses chansons, en particulier Across the Universe et Strawberry Fields Forever. Lennon va jusqu'à refuser de participer à l'enregistrement de Maxwell's Silver Hammer, qu'il qualifie de chanson pour grand-mère. Dans une interview à Rolling Stone, parue après la dissolution du groupe, il laisse aller ses rancœurs contre Paul McCartney et Brian Epstein, accusant ce dernier d'avoir sciemment volé le groupe d'une grande partie de ses revenus. Finalement, John Lennon raconte lui-même son histoire et son cheminement vers le pacifisme dans le pont de Getting Better, sa contribution à la chanson de Paul McCartney, en plus du fameux Can't Get No Worse du refrain. Il s'en explique dans l'interview de 1980 pour Playboy. Tout ce « I used to be cruel to my woman, I bit her and kept her apart from the things that she loved », c'était moi. J'étais cruel avec ma femme et, physiquement, envers toute femme. J'étais un cogneur. Je ne pouvais pas m'exprimer, je cognais. Je me battais avec les hommes et je frappais les femmes. C'est pour ça que je suis constamment branché sur la paix. Dans cette chanson de 1967, quatrième plage de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, il ajoute d'ailleurs « Man, I was mean, but I'm changing my sin, and I'm doing the best that I can. Mec, j'étais méchant, mais je change de décor et je fais du mieux que je peux. » 2-2-2, relation avec les Beatles. Chaque membre des Beatles a souvent évoqué la très forte amitié qui liait le quatuor de ses débuts au plus fort de la Beatlemania. Très soudés et se considérant dans l'œil du cyclone, créant un océan d'empathie au milieu de la folie qui les entourait en permanence, les Beatles sont même surnommés le monstre à quatre têtes au début des années 1960. Ringo Starr a par exemple évoqué une incroyable intimité, rien qu'à quatre types qui s'aimaient les uns les autres, c'était sensationnel. Depuis le départ aussi, une très forte complicité lie John à Paul McCartney, son partenaire d'écriture, son alter ego qui explique « Le fait est que nous sommes vraiment la même personne, nous sommes juste les quatre parties d'un même tout ». Après la dissolution du groupe, les relations de Lennon varient grandement avec les différents membres. Seul Ringo Starr conserve continuellement de bonnes relations avec lui. Il lui compose même certaines chansons durant sa période de tension avec Yoko Ono. De même, il participe, comme Harrison et McCartney, au troisième album de Starr, Ringo. Cependant, si les quatre Beatles participent à l'album, ils ne sont à aucun moment tous réunis. John et George Harrison conservent de bonnes relations jusqu'au départ de Lennon pour les États-Unis. Néanmoins, lorsque Harrison part en tournée à New York, Lennon accepte de le rejoindre sur scène. Cependant, leur relation se tend lorsque Lennon ne se présente pas à la réunion qui doit légalement dissoudre le groupe. De même, lorsqu'en 1980, Harrison publie son autobiographie « I Me Mine », Lennon s'exaspère de ne pas y être cité et n'hésite pas à lancer quelques piques à ce sujet dans une interview de Playboy. Mais c'est avec Paul McCartney que les relations se tendent le plus. Dans son album « Imagine », Lennon lance une violente chanson à son égard, « How Do You Sleep ?», dans laquelle il attaque violemment son ami pour son conformisme, prétend qu'il n'a rien fait à part Yesterday, et chante « Those freaks was right when they said you were dead. C'est ma boule avait raison de dire que tu étais mort », une référence à la rumeur sur la mort de McCartney lancée en 1969. Par la suite, Lennon déclare cependant s'être plus attaqué à lui-même qu'à Paul. Leur relation se réchauffe en 1974 et en 1975. McCartney raconte que la dernière fois qu'ils se sont retrouvés ensemble chez Lennon, ils ont regardé l'émission Saturday Night Live, dans laquelle Lorne Michaels proposait de réunir le groupe pour 3 000 $. Dans son interview à Playboy, Lennon raconte que, sur le moment, ils ont envisagé de se rendre au studio de télévision pour faire une blague, mais qu'ils étaient trop fatigués. Le résultat a été imaginé dans le téléfilm Two of Us, sorti en 2000. Après l'assassinat de Lennon, McCartney est sous le choc. Sa dernière tentative de réconciliation s'est soldée par un échec, John le mettant littéralement à la porte. Cependant, peu avant sa mort, Lennon avait déclaré « Je n'ai jamais demandé qu'à deux personnes d'être mes partenaires de travail. L'une était Paul McCartney et l'autre Yoko Ono. Pas mal, non ?» Par la suite, McCartney rend plusieurs fois hommage à son ami en chanson. En 1982, il compose « Here Today » en son honneur, paru sur Tug of War, le premier album qu'il publie après la mort de Lennon. McCartney lui rend aussi hommage en concert. À partir de 2008, il reprend sur scène « A Day in the Life » et « Give Peace a Chance ». C'est l'intéressé qui résume le mieux ses rapports avec les membres du groupe. Lorsqu'on lui demande en 1980 si ceux-ci sont ses pires ennemis ou ses meilleurs amis, Lennon répond que ce ne sont ni l'un ni l'autre, et qu'il n'en a vu aucun depuis un certain temps. Il déclare également « Je continue à adorer ces mecs. Les Beatles, c'est fini, mais John, Paul, George et Ringo, ça continue. » 2-3, engagement et polémique. 2-3-1, engagement pacifiste et politique. Si les idées pacifistes de Lennon sont déjà visibles dans le film How I Won the War, sorti en 1967, il n'écrit sa première chanson ouvertement politique que l'année suivante, Revolution, publiée en single avec les Beatles. Il y indique en substance sa façon de faire la révolution, selon lui davantage une question d'état d'esprit, et en tout cas sans violence. Sa rencontre avec Yoko Ono le pousse à exprimer plus loin ses idées. L'année 1969 le voit s'activer sur tous les fronts médiatiques, accompagné partout par celle qui va devenir son épouse. Dès leur lune de miel à Amsterdam, en mars, Lennon et Ono organisent un bending for peace dans leur chambre d'hôtel où, en pyjama, dans leur lit, ils reçoivent des journalistes pendant une semaine pour promouvoir la paix dans le monde, obtenant ainsi une visibilité mondiale. Lennon organise un deuxième bending en juin à Montréal. Ils ont en effet dû organiser à leur premier choix, les États-Unis, car Lennon y était interdit d'accès. Au Canada, Lennon et ses amis enregistrent Give Peace a Chance dans leur chambre d'hôtel le 1er juin 1969. La chanson est reprise par des manifestants opposés à la guerre, à Washington DC, le 15 octobre suivant. Lennon, qui suit les événements de chez lui, à Londres, décrit cette journée comme l'une des plus belles de sa vie. Toujours en chanson, Lennon se propose de soutenir la candidature de Timothy Leary, le pop du LSD, au poste de gouverneur de Californie, en composant Come Together, en accord avec le thème de la campagne de Leary, Come Together, Join the Party. Cependant, il décide finalement de garder la chanson et l'enregistre avec les Beatles pour le publier en single. À la fin du mois de novembre 1969, John pousse son engagement jusqu'à renvoyer son insigne de membre de l'Empire britannique, alors détenu par sa tante Mimi Smith, à la reine d'Angleterre, en signe de protestation contre certains engagements de l'armée britannique. Si certains y voient une manœuvre publicitaire, Lennon reçoit dans cette affaire le soutien du philosophe Bertrand Russell. Il se permet même une petite pique à destination de la reine, dans un mot accompagnant sa médaille. « Votre Majesté, je renvoie mon MBE pour protester contre l'engagement de la Grande-Bretagne dans le conflit Nigeria-Biafra, contre notre soutien des États-Unis au Vietnam et contre les mauvaises ventes de Cold Turkey. Avec amour, John Lennon. » En décembre, Lennon et Ono lancent la campagne « War is over, la guerre est finie ». Le couple diffuse en plusieurs langues et dans le monde entier le message « La guerre est finie si vous le voulez, joyeux Noël, John et Yoko ». Le même mois, le couple Lennon participe à une manifestation dédiée à James Enranti, présumé exécuté par erreur en 1962. Lennon s'engage également aux côtés d'autres activistes et se radicalise progressivement. Au mois de janvier 1970, il se rase la tête et vend ses cheveux aux enchères pour soutenir Michael Hicks, activiste et révolutionnaire noir de Londres. Le mois suivant, Lennon apparaît les cheveux courts à l'antenne dans l'émission Top of the Pops, où il interprète son nouveau single Instant Karma, lui aussi véhiculant son message de paix. L'année suivante, il se lie d'amitié avec Jerry Rubin et A.B. Hoffman, fondateurs du Youth International Party, mouvement de gauche antiraciste et anti-guerre. Lennon accepte ainsi de donner un concert de soutien lorsque des détenus noirs sont abattus au cours d'émeutes en prison. Le mois suivant, lorsque le poète John Sinclair est arrêté pour avoir vendu deux joints de marijuana à un policier sous couverture, Lennon lui dédie une chanson et participe à un concert de soutien le 10 décembre 1971. Il apparaît sur scène aux côtés de Yoko Ono, Phil Hooks, Stevie Wonder et d'activistes pacifistes. Sinclair est libéré trois jours plus tard. C'est à l'occasion de ce concert que le FBI commence à s'intéresser au cas de Lennon, des agents dissimulés dans la foule ayant enregistré tout ce qui s'y passait. En 1972, soit l'année suivante, Lennon écrit la chanson « Angela » pour soutenir la campagne visant à faire libérer Angela Davis, activiste proche des Black Panthers. Un ancien agent du MI5, David Shaler, a également déclaré que Lennon avait donné de l'argent à l'Irish Republican Army à la suite du Bloody Sunday. Choqué par l'événement, le chanteur a en effet expliqué qu'il préférait être du côté de l'IRA plutôt que de celui de l'armée britannique. Lennon écrit deux chansons en référence à cet épisode, The Luck of the Irish et Sunday Bloody Sunday, où il explique son soutien aux catholiques, paru sur l'album Sometime in New York City en 1972. Cette année-là, Lennon aurait également financé le Workers' Revolutionary Party, parti trotskiste britannique. Les dons du chanteur à l'IRA et au WRP s'élèveraient au total à 45 000 livres. Ces informations, révélées seulement en 2000 dans la presse, ont été fermement démenties par Yoko Ono. 2-3-2, tentative d'expulsion des États-Unis. En 1972, craignant que les activités pacifistes et le soutien de John Lennon au démocrate George McGovern ne coûtent sa réélection à Richard Nixon, le gouvernement américain tente de chasser le chanteur du pays. En février, en effet, John Lennon est cité dans un rapport confidentiel de la Commission de la Sécurité Intérieure au sujet des militants de gauche en pleine campagne anti-Nixon. Ces gauchistes,
notamment Rennie Davis, déjà arrêté pour des participations à des actions de ce type lors du rassemblement du Parti démocrate à Chicago en 1968, prévoit d'utiliser John Lennon afin de recruter le plus de gens possible. En conséquence, Nixon lui-même aurait personnellement demandé à ce que Lennon soit désormais surveillé. De plus, le sénateur Storm Thurmond considérerait que l'expulsion pourrait être une contre-mesure stratégique contre Lennon. Par ailleurs, certaines chansons du musicien sont interdites et il est constamment suivi, selon ses dires, par des agents du FBI qui ne cherchent même pas à se cacher. J'ouvrais ma porte et hop, il y avait un gars en faction de l'autre côté de la rue. Il me suivait partout, tout le temps. Et surtout, il tenait à ce que je m'en rende compte. Les procédures pour l'expulser débutent le mois suivant, se fondant sur un délit de possession de cannabis datant de 1968, alors que Lennon résidait encore à Londres. S'ensuivent 4 ans de procès. Le 16 mars 1972, Lennon reçoit son ordre d'expulsion du territoire américain. Toutefois, il parvient à rester sur le sol américain grâce à son avocat, Leon Wills, et au soutien de nombreuses personnalités, via une pétition signée entre autres par Bob Dylan, Fred Astaire et même John Lindsay, alors maire de New York. Les problèmes de Lennon avec l'administration américaine ne l'empêchent pas de continuer son action. Il participe ainsi en mai à une manifestation pacifiste à Manhattan. En juin, il publie un nouvel album, Sometime in New York City, de loin son disque le plus engagé politiquement.